l'île de Pâques avec ses célèbres moai. Ouais. Les moai, c'est ces statues. Tu sais qu'on en a découvert sur l'île de Pâques et elles sont quand même étonnantes, ces statues. Très surprenantes.
Comment ont-ils fait?
Voilà. Et surtout, pourquoi ont-ils fait ces statues? Alors, il y a des hypothèses complètement farfelues, dont certains disent que ce sont des extraterrestres qui sont venus leur donner... Je pense que c'est... Historiquement, on a des solutions un peu plus terre-à-terre, si j'ose dire, mais qui sont tout aussi passionnantes, quand même.
Bon, eh bien voilà, vous avez la réponse. Donc, les extraterrestres sont
direction
apportés...
Le Pacifique.
Ah non, c'est pas ça.
Mais non.
Direction le Pacifique, l'île de Pâques et ses secrets. On va essayer de les découvrir ensemble avec les aventuriers de l'étrange.
Et tu sais, les mois où il fait le plus chaud sur l'île de Pâques, décembre, janvier, février.
Ah
c'est
oui,
c'est
en ce moment, c'est l'été.
Et c'est magnifique.
C'est l'été. Bon, bah, si vous voulez partir en vacances, l'île de Pâques
c'est
vous
maintenant.
Attend. Allez, Sud Radio, en tout cas, on va voyager tranquillement ce soir. Fermez les yeux, Louis Bénédicte, les aventuriers de l'étrange embarqués dans le vaisseau.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédicte, les aventuriers de l'étrange.
Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vous emmène via Sud Radio sur une île du Pacifique, une île chargée de mystères non élucidés depuis des siècles. Je vous emmène sur l'île de Pâques. Mon invité, pour nous servir de guide sur cette île, Patrick Férine, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Patrick Férine, ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans les aventuriers de l'étrange. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau. Vous êtes membre du comité de direction de la revue Kadat, une revue qui s'intéresse aux civilisations disparues. D'ailleurs, pour en savoir un petit peu plus et s'abonner à cette revue que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent, il suffit d'aller sur le site kadat.be. Alors Kadat, ça s'écrit kadath.be. comme Belgique, évidemment. Jacques Gossard était notre invité, qui fait partie également de cette revue. Nous avons parlé de l'Atlantide. Dimanche prochain, vous serez à nouveau avec nous, en compagnie de Jacques Gossard, pour parler de Glozel en France. Mais ce soir, nous cantonnons, voilà, c'est le mot que je cherchais, à l'île de Pâques. Alors, Patrick Férine, vous avez réalisé un documentaire. Vous y êtes allé deux fois, hein, je crois, à l'île de Pâques.
Oui, c'est bien ça, oui.
Ouais. Alors, nous évoquerons avec vous les célèbres moai, qui sont ces statues qui ont rendu cette île célèbre dans le monde entier. Nous évoquerons également l'histoire de cette population indigène qui les a dressées, qui les a sculptées Pourquoi l'a-t-elle fait? À quoi servent ces Moai? Comment ont-ils réussi de telles prouesses? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec vous durant les deux heures qui viennent. Vous le savez, vous qui nous écoutez, vos questions, vos réactions sont bien entendu les bienvenues. Notre standard est à votre disposition. Morad attend que vous l'appeliez pour vous passer à l'antenne et discuter avec nous. Au 0826 300 300 0826 300 300, où vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez ensuite votre commentaire, votre question, et vous l'envoyez au 71 200, et ça arrivera juste sur l'écran qui est sous mes yeux, et c'est moi qui lirai votre SMS dès qu'il arrivera.
Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédi sur Sud Radio.
Patrick Férine, avec vous donc, nous allons partir à la découverte de cette île de Pâques, qui est célèbre dans le monde entier. C'est vrai que tout le monde a vu ces photos, ces images de ces statues absolument impressionnantes, d'autant que certaines ont gardé des yeux étrangement fixes et très très fascinants. Quelle a été, avant de parler de l'histoire de cette île et de ces statues, quelle a été votre sensation lorsque vous avez posé le pied pour la première fois sur l'île de Pâques?
Ben, la toute première fois que je suis allé, c'est il y a 20 ans exactement,
oui.
Pratiquement au mois près, et j'avais fait un long voyage au Pérou, et donc du Pérou je suis passé au Chili, parce que pour aller à l'île de Pâques, il faut obligatoirement passer par le Chili, il faut prendre l'avion à Santiago du Chili, qui assure la liaison avec l'île de Pâques.
Oui.
Et donc quand je suis arrivé là-bas il y a 20 ans, les choses étaient très différentes. Ça fait une génération, je suis allé l'année passée exactement à ce moment-ci, mm-hmm. au mois de novembre l'année passée, je suis allé pour 4 semaines. Et donc j'ai vu l'île de Pâques avec un décalage de 20 ans, donc quasiment une génération. Et le changement est énorme. Alors ma toute première impression quand je suis arrivé là-bas, ben, je venais de lire les pages d'un livre qui est très beau, qui est un livre de Pierre Loti. Pierre Loti qui était passé par là,
oui.
lors d'un voyage. Pierre Loti était marin et il était aspirant à bord d'un aviso d'un marine français qui s'appelait le Flore. Et il est allé là-bas je crois que c'était en 1872, si je me souviens bien.
Ouais.
Et alors, il a laissé des pages qui sont toutes empreintes de romantisme à propos de l'île. Bon, il a fait certaines observations, il a ramené quelques dessins. Bon, par lui, on a pu se rendre compte un petit peu de ce que c'était.
Mm-hmm.
Mais il a laissé surtout une grande mélancolie, une grande nostalgie. Et ces pages sont vraiment... ça se ressent très, très fort. Et quand j'y suis allé, eh bien, je dois dire que j'ai ressenti la même chose à l'époque. Parce que moi, j'y étais allé à l'époque, c'était l'heure hiver là-bas. L'année passée, quand je suis allé, c'était durant l'heure été.
Mmh.
Et l'île de Pâques en hiver, c'est à certains moments, c'est pratiquement sinistre.
Ah oui.
C'est véritablement un autre monde. À l'époque, c'était, il n'y avait pas de touristes au moment où moi je suis allé. C'était vraiment la plus mauvaise saison. Le temps était épouvantable. Vous imaginez les côtes de Bretagne par grosse tempête, c'est
ah
à
oui.
peu près ça.
Ah oui, c'est pas terrible, ça met le bon don quand
pas
même.
Pas terrible, mais c'était quand même extraordinaire, ça, ouais. ça, il faut le dire. Mais bon, mon impression, ma toute première impression, effectivement, c'est cette impression de désolation, d'isolement qui est vraiment terrible, parce que quand on est là, bon, c'est un truisme de le dire, on est sur l'île la plus isolée du monde. Et on ressent véritablement cette impression dans sa chair, dans le paysage, dans les gens qu'on croise, dans l'humeur, dans tout. On est vraiment submergé par ce sentiment.
Mmh. Pour situer un peu plus précisément l'île de Pâques, j'ai dit que c'était dans l'océan Pacifique, elle est grosso modo au large du Chili à peu près.
Elle est au large du Chili.
À 3700 kilomètres du
oui,
Chili.
Oui, c'est ça. Donc
c'est loin.
Pas, si vous avez oublié vos cigarettes, c'est loin. Hein? Donc c'est ça, c'est 3700 kilomètres des côtes du Chili. Donc on est à l'ouest du Chili.
Oui.
On est bien en dessous de l'équateur. On est grosso modo à hauteur de l'Australie.
Oui.
Et de l'autre côté, eh bien, il y a à peu près 4000 kilomètres jusqu'à la Polynésie, quoi.
C'est vraiment au milieu de nulle part, hein.
C'est véritablement au milieu de nulle part, et c'est un territoire qui est tout petit. J'ai lu récemment que c'était pas plus grand que l'île d'Oléron, ce qui vous donnera peut-être une idée de la superficie.
Ouais,
c'est vraiment minuscule. Et la plus longue ligne droite sur l'île de Pâques fait 20 ou 22 kilomètres, si je ne me trompe pas.
Ah oui, effectivement. Donc on a vite fait le tour de l'île, finalement.
Pas tellement, parce que on s'y déplace assez difficilement, hein. Donc c'est une île volcanique.
Oui.
Bon, bien sûr, il y a quelques routes maintenant, il y a des chemins, mais malgré ça, on s'y déplace assez difficilement.
Oui.
Et tous les endroits ne sont pas aménagés.
Mm-hmm.
Donc si on veut véritablement faire le tour, ça prendra quand même un petit temps.
Oui. Et la population locale a énormément évolué ou pas? Là, on fait une petite mise en situation actuellement, hein, avant de revenir sur l'histoire. Il y a eu beaucoup d'apports, d'immigration, ou c'est resté à peu près la population, grosso modo, que l'on a connue lors des premières découvertes de cette île?
Non. Lors des premières découvertes de l'île, y a des tas de chiffres contradictoires dans la littérature. Certains ont parlé de plusieurs milliers. On avançait les chiffres de 10 000, 15 000 insulaires à un moment donné.
Ouais.
On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsque il y a eu les premières rafles. Il y a eu des rafles terribles occasionnées par des marchands d'esclaves péruviens à la fin du 19e siècle.
Oui.
Et là, ils ont emmené un millier de Pascouans en déportation sur les îles au large du Pérou, où on exploite des gisements de guano. Et très très peu en sont revenus. Quelques centaines à peine sont revenus. Non, je crois que c'est une centaine à peine sont revenus. Mmh. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont filé des maladies et la lèpre aux quelques survivants. Donc au début du siècle, je sais que au début du 20e siècle, la population à l'île était véritablement extrêmement réduite. On parle d'un millier de survivants.
Ah oui, c'est considérable.
C'est
dramatique, oui.
C'est véritablement dramatique. C'est une histoire très, très, vraiment dramatique, l'histoire de l'île de Pâques à différentes époques. Et bon, maintenant, on peut compter sur 2500 Pascouans à peu près.
Mm-hmm.
On parle parfois d'un petit peu plus, mais c'est une population. Les vrais Pascouans de souche à l'heure actuelle, bien, ils commencent à devenir minoritaires. Et il y a beaucoup d'apports de la Polynésie et du Chili, bien entendu.
Oui, bien sûr. Vous restez avec nous, Patrick Férine. Une première pause et ensuite on se retrouve pour rentrer dans l'histoire de cette île qui a été découverte il y a fort longtemps par un flibustier. C'était un flibustier, vous me confirmerez ça tout à l'heure, du nom d'Edward Davis, paraît-il, qui en 1697 a découvert cette île perdue au milieu de nulle part. Et ensuite, nous parlerons de ces statues qui posent encore au monde scientifique énormément de questions.
Les aventuriers de l'étrange. Avec Louis Bénédit sur Sud Radio.
Avec mon invité Patrick Férine, qui est en direct avec nous depuis la Belgique et qui fait partie du comité de direction de la revue Kadat, une revue qui s'intéresse aux civilisations disparues. Et nous avons traité notamment avec un autre membre de cette revue, de l'Atlantide. Nous parlerons dimanche prochain avec Patrick Férine, mon invité de ce soir, et Jacques Gossard de Glozel. Je ne vous en dis pas plus, c'est un site archéologique qui se situe en France, qui est des plus passionnants. Et je vous redonne le site internet pour avoir plus d'informations concernant cette revue et vous y abonner. Il s'agit, donc le nom du site, c'est kadath.be. Kadath, ça s'écrit kadath.be. C'est une revue qui sort tous les trimestres, je crois, hein, Patrick Férine, ou un peu plus?
Oh, à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, nous sommes au rythme beaucoup plus lent. Nous faisons paraître trois numéros étalés sur 2 ans.
D'accord. Très bien.
Au début, quand on a commencé, mais là, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a plus de 30 ans, parce qu'on a commencé en 63, 13, on faisait paraître 6 numéros par an, mais nous étions évidemment beaucoup plus nombreux.
Bien sûr.
Plus jeunes aussi.
Et voilà. Très bien. Alors, Patrick Férine, parlons de l'histoire de ce petit bout de terre qui est très loin au large du Chili. 3700 kilomètres, on a dit 4000 kilomètres de l'autre côté pour toucher la première terre, donc perdue au milieu du Pacifique. Quand a-t-elle été découverte et par qui pour la première fois? Oui.
Oui, comme vous l'avez dit, elle n'a pas été vraiment découverte par Davis. Je crois qu'il l'a aperçu. Il est passé au large, mais bon, on n'en sait pas tellement plus. Elle a véritablement été découverte. On peut en attribuer la découverte à un Hollandais, un navigateur hollandais qui s'appelait Jacob Roggeveen, et qui l'a découverte en 1722, exactement le jour de Pâques.
D'où l'explication de la lune de Pâques.
L'île porte ce nom, évidemment.
Oui. Et alors, quelle a été son histoire à cette île? Parce que quand ce marin a posé le pied sur cette île, je suppose qu'il a dû être étonné par l'existence déjà de ces statues.
Oui, bien sûr. Oui, comme tous ceux qui ont suivi d'ailleurs, et ils sont très nombreux. Et bien sûr, ce qui leur a posé problème, je vais dire, c'est que ils ont trouvé là une population qui déjà était en voie de, comment dirais-je, dont la culture s'éteignait et était en très mauvais état.
En 1722, déjà.
Déjà à ce moment-là, oui. Déjà à ce moment-là. Les statues, beaucoup de statues avaient été renversées. L'île connaissait des secousses parce qu'il y avait beaucoup de guerres entre les clans. L'île était partagée entre une série de clans.
Pourtant, une petite île, hein.
Vous l'avez dit, pourtant.
Oui,
tout à fait. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils n'ont plus vu d'arbres, ils n'ont plus vu de bois. Et pour cause, mais ça on en reparlera peut-être, parce que les habitants de l'île avaient abattu tous les arbres disponibles, ils avaient brûlé quasiment toutes leurs ressources, il ne restait pratiquement plus rien, et ça a évidemment frappé l'esprit des premiers Européens qui ont mis le pied là. Ils ont vu ces statues gigantesques, c'est véritablement une entreprise pharaonique quand on voit le chantier là-bas, et ils n'ont pas pu s'imaginer de quelle manière ces statues avaient pu être érigées, transportées d'abord, érigées, placées sur des plateformes qui sont parfois très hautes et très impressionnantes, sans l'aide de bois, sans l'aide de leviers, sans l'aide d'instruments. Et ne voyant plus aucune trace de ça, évidemment, ça les a immédiatement intrigués. Et c'est le point de départ de toute une série de théories complètement folles, évidemment, qui ont perduré.
Mais est-ce que la population était accueillante, était plutôt méfiante vis-à-vis de ces navigateurs? Est-ce qu'ils donnaient l'impression de voir, vous savez, comme lorsque les conquistadors sont arrivés, est-ce que ils ont eu les Incas, pour eux, c'est la première fois qu'ils voyaient des blancs. Est-ce que ça a été la même chose? On peut faire un parallèle entre ces deux rencontres?
Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Malheureusement, le premier contact entre les Pascouans et les visiteurs européens, ça s'est très mal passé, évidemment. Roggeveen a mis le pied sur le sol de l'île quelques jours après la découverte. Il est arrivé le jour de Pâques, et puis il a fallu quelques jours avant qu'il ne débarque sur l'île. Il a envoyé des hommes d'armes, une centaine d'hommes d'armes. Et il y a eu un incident, les indigènes sont venus voir, ils étaient curieux évidemment, bien sûr.
Bien sûr,
ils étaient plutôt dociles, ils étaient plutôt accueillants. Puis il y a eu un incident dont on ne connaît pas exactement tous les tenants et aboutissants, mais toujours est-il que le chef de troupe a fait ouvrir le feu, et ça s'est soldé par une dizaine de tués déjà. Donc le premier contact, ça s'est déjà très mal passé. Bon, par après, ils ont réussi à s'entendre avec les indigènes, et puis bon, ils ont pu commercer, ils ont échangé quelques babioles, etc. Et puis voilà, mais ça laisse déjà un très mauvais souvenir. Et lorsque les autres sont arrivés, lorsque les autres Européens sont arrivés, eh bien, la plupart du temps, ça s'est passé de la même manière. Cook est arrivé un petit peu après.
James Cook est allé sur l'île de Pâques.
James Cook est allé sur l'île de Pâques, oui, tout à fait. Il y en a d'autres. James Cook est allé, je crois, une cinquantaine d'années plus tard.
Oui, oui, oui.
Une cinquantaine d'années. Et ces observations correspondent en gros à celles de Roggeveen.
Mmh. Alors, revenons un petit peu sur Roggeveen, qui est arrivé donc le premier occidental, on va dire, à avoir mis le pied sur cette île de Pâques, donc perdue au milieu du Pacifique. Déjà, il a constaté que la culture des Pasquans était en train de péricliter. Donc ça veut dire que quand même elle était largement antérieure à l'arrivée donc de Roggeveen, parce qu'une culture ne périclite pas comme ça du jour au lendemain. Ça se fait quand même sur plusieurs générations, j'imagine. Et les statues étaient déjà en mauvais état, donc on peut dire qu'elles étaient déjà bien anciennes.
Oui, c'est-à-dire que c'était leur impression. Lorsqu'ils ont vu ce qu'ils ont pris pour un décalage entre les vestiges qui gisait là, qui était impressionnant, et la population qu'ils ont rencontrée, ils se sont dit pratiquement automatiquement que ces vestiges ne pouvaient pas être le fait de cette population.
Oui.
Donc ces vestiges, pour eux, remontaient à des temps bien plus anciens. Et probablement, dans leur esprit, à une autre population qui devait être brillante et qui n'avait peut-être aucun rapport avec les pauvres indigènes, pauvres entre guillemets, bien sûr, les misérables indigènes qu'ils voyaient là.
Oui, il pensait qu'il y avait eu une civilisation qui a dû être florissante et ensuite s'est dégradée petit à petit. Leur schéma, c'était à peu près ça. Quoi.
C'était à peu près ça, oui. À peu près ça. Oui.
Alors, parlons un petit peu quand même de ces Moai, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Hein.
Oui, c'est bien ça.
Voilà.
Oui.
Alors, ces statues, ce sont donc, ça s'appelle des Moai. Décrivez-nous une statue. Ça ressemble à quoi visuellement et donnez-nous quelques chiffres pour que l'on comprenne bien l'importance. Ce qui rend ce dossier tout à fait passionnant.
Alors bon, ben disons que sur cette île qui est quand même microscopique, l'île est ceinturée de Moai. Il y en a tout autour de l'île. Les Moai, on en a recensé pratiquement un millier à l'heure actuelle.
Ah oui, quand même.
Pratiquement. Oui. Il existe un recensement d'une archéologue américaine qui s'appelle Joanne Van Tilburg, et qui, elle, en a répertorié, je crois, un peu plus de près de 900. Mais depuis, bon, on en a encore trouvé d'autres, donc je crois qu'on va atteindre bientôt le chiffre du millier de Moai, de statues.
Oui.
Elles sont de grandeur et de taille différentes, bien entendu. Il y en a de fort petites. Il y en a qui mesurent à peine un mètre, et puis il y en a d'autres qui dépassent les 20 mètres. Bon, avec une moyenne qui va tourner peut-être à 7-8 mètres et quelques grandes à 10-12 mètres par là. Ces statues sont placées sur des plateformes cérémonielles, disons, des grandes plateformes en pierre, dont on a répertorié à peu près, je crois, 300 aouts. On appelle ça des aouts, ce sont donc les plateformes cérémonielles.
Oui.
On est près de 300 aouts, sachant que beaucoup ont été détruits, bien sûr. D'autres se sont abîmés dans la mer parce que bon, il y a des endroits où des rats de marée ont emporté du terrain, etc.
Oui.
Mais on peut estimer que l'île était véritablement ceinturée d'aouts et de Moai.
Ça devait faire une forte impression quand même, j'imagine, quand on regardait depuis un bateau en arrivant avec sa longue vue, on regardait le profil de l'île, voir toutes ces silhouettes, ça devait faire un sacré choc.
Pour peu que les statues aient encore été debout à ce moment-là.
Oui, effectivement.
Ce qui n'est pas le cas.
D'accord.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui.
On possède certaines gravures fort anciennes, donc des dessinateurs qui ont participé aux toutes premières expéditions européennes là-bas, ont laissé des croquis, des dessins, où on voit parfois encore des aouts avec quelques statues redressées. Et puis, à l'arrière-plan, on voit très bien que les statues sont écroulées. Alors, ces statues étaient-elles réellement redressées lorsque ces premiers arrivants les ont vues, ou bien est-ce une licence d'artiste, on ne sait pas trop. C'est possible qu'il y en ait encore eu quelques-unes redressées.
Alors, pour terminer le question visuelle, je dirais, de ces Moai, qu'est-ce qu'ils représentent ? Enfin, du moins, un visage seulement, un tronc, est-ce qu'il y a des bras, est-ce qu'il y a des mains, c'est comment ?
Alors, l'image d'Épinal de la statue de l'île de Pâques, c'est un visage très allongé, avec un nez fort aquilin, un regard, pour peu qu'on l'imagine, oui, qui doit être méprisant, et une moue des lèvres qui a l'air dédaigneuse. Alors, le visage est très allongé, les lobes des oreilles sont distendus et pendent de chaque côté de la statue.
Oui.
Et puis, il y a un tronc. Ce sont des grands cul-de-jatte. Il n'y a pas de jambes.
Mm-hmm.
C'est un tronc. Ça s'arrête à peu près au niveau du sexe,
oui,
sous le nombril.
Oui.
Les bras sont placés le long du corps, sur la plupart des statues, c'est un peu le schéma habituel. Et puis, les mains viennent se rejoindre à hauteur du nombril ou un peu en dessous du nombril,
mm-hmm,
et montrent de longs ongles qui se rejoignent au centre de l'abdomen, là. Ces statues sont fichées en terre sur les flancs d'un volcan qui est le volcan Carrière. C'est donc à un des bouts de l'île. C'est une île triangulaire. Disons qu'il y a trois grands volcans. Il y a un grand volcan à chaque extrémité du triangle de l'île.
Oui.
Et puis, disons qu'à l'est de l'île, il y a un des volcans. Ce n'est pas le volcan qui est au bout de l'île, mais c'est un des grands volcans de l'île qui s'appelle le Ranoraraku, qui est la grande carrière où on taillait les statues. Au pied de ce volcan gisent une série de moai qui sont fichés en terre maintenant, mais on les a redressés, c'est relativement récent.
Oui.
Ils gisaient couchés lorsque les premières expéditions sont arrivées,
oui,
les premiers archéologues sont arrivés. Et puis, sur le flanc extérieur et sur le flanc intérieur du volcan, eh bien là, c'est vraiment la grande carrière, c'est le grand chantier. Il y a toute une série de moai, il y en a à peu près 300, je crois, qui sont là en attente.
Ah oui, d'être dressés sur le site auquel ils étaient destinés, en fait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a une partie qui sont donc dressés, qui sont fichés en terre, si vous voulez. Donc, certains étaient même enterrés jusqu'au cou, d'autres jusqu'au front, d'autres étaient même complètement ensevelis. Et maintenant, on les a replacés de façon à ce qu'on puisse les voir et qu'ils se dressent d'une façon un peu majestueuse. Mais là, c'est un peu pour le tourisme.
Mm-hmm.
Et puis, donc, il y a une partie de ces 300 moai qui est toujours attachée à la carrière. Qui sont donc, on les a dégagés.
Oui.
On peut circuler autour, si vous voulez. Mais ils ne sont pas encore détachés. Pour ça, il faudrait creuser encore en dessous. Et certains sont en voie d'achèvement. Parce qu'on pense que le chantier a été interrompu d'une manière assez brutale,
mm-hmm,
parce qu'il y a véritablement à l'intérieur du volcan un moai qui gît sur une sorte de quille qui se trouve dans le dos et qui est une véritable arête dorsale. Il suffirait de, peut-être encore quelques heures
de travail pour le terminer,
à coup
en fait,
de burin de basalte,
oui,
et on pourrait le détacher véritablement du sol de la carrière.
Oui. Alors, beaucoup de questions se posent évidemment à partir de ce moment de notre enquête sur ce dossier des statues de l'île de Pâques. La première, c'est comment ont-ils fait pour réaliser ce travail absolument pharaonique, vous le disiez Patrick Férine, vu les dimensions des statues et leur poids. Qu'est-ce qui les a poussés à fabriquer ce genre de statues et que représentaient-elles ou que représentent-elles encore aujourd'hui? Nous allons étudier toutes ces questions les unes après les autres, juste après cette pause sur Sud Radio. Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer vos SMS, vous pouvez, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, votre commentaire, votre réaction et vous envoyez le tout au 71-200. D'ailleurs, on a reçu un SMS de Sophie qui nous dit « Merci Louis pour ces émissions passionnantes, merci. » Et ces très belles musiques, ça c'est merci à Mathieu qui réalise cette émission, c'est lui qui a trouvé la belle musique d'introduction. Qui vient tout droit du Pacifique d'ailleurs, cette musique, pour respecter le thème de ce soir. Allez, une pause et on se retrouve pour continuer cette promenade en plein milieu du Pacifique sur l'île de Pâques.
Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédi sur Sud Radio.
Ce soir, nous sommes sur un petit bout de terre au milieu de l'océan Pacifique, au milieu de nulle part, comme nous l'avons dit avec mon invité Patrick Férine. Nous sommes sur l'île de Pâques et nous vous suivons, Patrick, à travers une promenade tout autour de cette île pour découvrir, entre autres, ces moai, ces statues que vous nous avez décrites tout à l'heure. Et là, vous nous avez amené à un bout de l'île, à une carrière qui est à flanc d'un volcan où tous les moai ont été sculptés, dégagés. Certains d'entre eux sont encore d'ailleurs en cours d'achèvement. Et vous nous l'avez bien précisé, on dirait que le chantier a été abandonné du jour au lendemain. Hein.
C'est l'impression que ça donne, effectivement.
Ouais.
Oui, oui.
Ouais. Alors, est-ce que, évidemment, je sais que des scientifiques, des chercheurs se sont penchés sur comment ces indigènes, ces tribus que les premiers explorateurs décrivent comme assez frustres, quand même, ne possédant pas un matériel ou une technologie extraordinaire, comment ces gens-là ont pu réaliser de telles prouesses? Alors, par quel bout voulez-vous que l'on prenne ce dossier fort épineux?
Mais on pourrait peut-être commencer par dire ce que l'on pense que sont les statues.
Oui.
Que sont ces Moai? Bon, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec une énorme précision. Ça reste du domaine de l'hypothèse, bien sûr. Mais bon, l'interprétation, il y a plusieurs interprétations. Disons que la plus vraisemblable est que les Moai représenteraient des ancêtres. Des chefs fameux de l'île, peut-être des rois, des personnalités de haut rang, qui ont marqué évidemment l'histoire de l'île. C'est une théorie qui s'appuie en partie sur les observations ramenées par Cook, qui avait noté que les statues portaient des noms qui était précédé du terme Moai et du mot Moai qui signifie en fait je crois que c'est lieu de sépulture.
Ah, très bien, oui. Ouais.
Et les statues étaient également précédées du mot Ariki. Ariki signifie chef.
D'accord.
C'est un nom qu'on retrouve ailleurs et c'est un nom qu'on retrouve du côté de la Polynésie.
Ouais.
Il faut bien se dire que la population de l'île de Pâques, les Pascouans d'origine, viennent de Polynésie.
Il y a eu des études ADN, je crois, hein, qui ont été faites pour essayer de comprendre la provenance de ces indigènes.
Voilà. Alors tout porte à croire maintenant. On a longtemps hésité. Tout porte à croire que les Polynésiens que tout est polynésien à l'île de Pâques. Les Polynésiens ont colonisé l'île de Pâques, disons en gros, entre 800 et 1000 de notre ère.
Oui. Mmh.
Bien s'il existe des dates, il existe peut-être des dates un peu plus avancé, mais on n'est pas très sûr. Là.
Ouais.
Tout ça reste encore à vérifier.
Mais dites-moi, Patrick Ferrin, quand même.
C'est bien d'origine polynésienne, tout ça.
Parce que la Polynésie est un minimum entre 3 et 4 000 kilomètres, quand même.
Tout à fait.
C'est énorme. Pour, vous vous rendez compte, entre 800 et 1000 de notre ère, des marins capables de franchir des distances aussi colossales.
Oui, seulement ce ne sont pas n'importe quels marins. Les Polynésiens étaient parmi les peuples anciens, peut-être les plus fameux marins que l'histoire ait connus. C'était des navigateurs extraordinaires. Ils avaient des embarcations très performantes. Le trimaran, ça vient de là-bas.
Oui, oui.
Nous n'avons rien inventé. Ils avaient de véritables vaisseaux qui pouvaient prendre la mer et qui pouvaient emporter un grand nombre de passagers. C'était des marins qui s'orientaient sur les étoiles. C'était des gens qui avaient véritablement une maîtrise de la mer. On les a appelés à un moment donné les Phéniciens du Pacifique.
Ouais.
Les Phéniciens qui étaient de grands navigateurs dans le monde antique, dans notre monde antique, eh bien leur équivalent se trouve là-bas dans le Pacifique.
Oui, parce que c'est quand même une prouesse extraordinaire à cette époque-là de traverser un océan sur une distance de 3 à 4 000 kilomètres. C'est remarquable, ça tient de l'exploit, je dirais même.
Ça tient de l'exploit, mais on se rend compte de plus en plus que les anciens ont accompli des exploits tout à fait extraordinaires.
Oui, notamment dans le domaine maritime.
Notamment dans le domaine maritime,
oui, oui, oui.
On découvre tous les jours des choses tout à fait stupéfiantes.
Oui, alors revenons donc à nos Moai, qui seraient donc, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, des sépultures de chefs ou de rois finalement.
Oui, alors là, on n'en est pas vraiment sûr. C'est possible. Mm-hmm. C'est possible parce que, bon, il est clair qu'on y a trouvé beaucoup d'ossements. Mais bon, on ne peut pas affirmer que c'était le but premier de ces monuments.
Oui.
Ils ont fini par servir de sépulture, disons plutôt ça.
Ah oui, c'est complètement différent finalement. Ça,
c'est peut-être complètement différent, oui, oui.
Ouais.
Là, on n'en a pas encore vraiment la preuve.
Uh-huh.
Il faut dire qu'il reste encore, on a fait pas mal de travail à l'île de Pâques, on a fouillé, c'est vrai. Il y a eu plusieurs missions qui ont accompli des choses remarquables, mais il reste un travail gigantesque à faire. Il y a énormément de vérifications à faire encore.
Mmh. Mais c'est quand même surprenant parce que les indigènes, eux, je serais tenté de dire, n'ont pas expliqué pourquoi, à quoi servaient ces statues.
Les indigènes ont expliqué. Ce qui se passe, c'est que lorsque on s'est employé à recueillir véritablement leur récit, leur tradition, et c'est relativement récent. Mmh. Je vais dire, ça date de la fin du 19e siècle.
Ouais.
Les navigateurs qui sont passés là avant n'avaient pas cette préoccupation-là, véritablement. Ils allaient là pour toute autre chose, évidemment. Mais lorsqu'il y a eu les premières enquêtes, les premières missions archéologiques, je vais dire, c'est assez tardif. Et là, évidemment, les Américains ou les Européens, parce qu'en l'occurrence, c'est un Américain qui a réalisé ce qu'on pourrait appeler la première enquête ethnologique. C'est en 1889, si je me souviens bien.
Oui.
C'était un Américain du nom de William Thompson qui agissait pour la Smithsonian, mm-hmm. la fameuse Smithsonian Institution à Washington. Et qui a séjourné là relativement longtemps et qui a fait un travail assez remarquable, ramené beaucoup de renseignements. Mais à partir de ce moment-là, ceux qui ont suivi se sont trouvés devant une population qui véritablement était presque amnésique en regard des maltraitances et des crimes qui avaient été perpétués là-bas.
Ouais.
Et donc, les gens qui possédaient, les aristocrates entre guillemets,
oui, oui, oui.
Qui possédaient la tradition, ceux qui savaient, ceux qui détenaient le savoir de l'île de Pâques, ont été envoyés en déportation. Et pratiquement tous ont été exterminés. Et lorsqu'on a ramené quelques pauvres survivants, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont ramené la lèpre là-bas, ils ont ramené des tas de maladies qui ont décimé le restant de population qui survivait dans des conditions épouvantables là-bas.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on n'a plus retrouvé grand monde pour expliquer. Alors, certains prétendaient savoir, il y avait encore quelques survivants de la classe savante, je vais dire, qui ont donné quelques informations aux premiers explorateurs qui ont recueilli tout ça. Mais c'est bien pauvre, évidemment, par rapport à ce qu'on aurait pu apprendre.
Oui. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous dire que le monde occidental a carrément tué une population et presque éradiquer son histoire.
Oui, tout à fait. À quelques dizaines de survivants près, pratiquement, oui.
Ouais, ouais.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment dramatique. Alors donc, du coup, on se perd en conjoncture concernant, évidemment, ces statues, ces moai. Quelles sont les autres pistes qui existent, les autres hypothèses?
Excusez-moi, je ne voudrais pas dire qu'on n'a rien recueilli. On a recueilli des traditions, évidemment.
Mmh.
Il y a des écrits qui ont été laissés par ces premiers voyageurs. On sait certaines choses. Mais les traditions... Bon, elles peuvent servir, mais on se rend compte qu'elles posent beaucoup de points d'interrogation aussi, évidemment.
Mmh, mmh.
Elles donnent une certaine image, mais ça ne résout pas toutes les questions.
Oui. Mais ces moai, certaines d'entre elles, certaines statues, hein, j'entends, parce que c'est un moai ou une moai à propos? C'est un moai?
Ah là là, disons un moai.
Un moai, voilà. On va dire, voilà, on va partir sur le masculin.
Voilà, on va trancher.
Ok. Certains moai sont recouverts comme d'une sorte de coiffe ou de chignon, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Alors, effectivement, ces statues possédaient une coiffe. On appelle ça un pukao.
Un pukao.
Alors, c'est une coiffe, c'est cylindrique. et c'est censé représenter un chignon. C'est une interprétation.
Oui.
D'autres ont dit que c'était une coiffure, un couvre-chef, on ne sait pas trop. Peut-être que effectivement c'est censé représenter le chignon. Ces gens-là possédaient une chevelure abondante et très souvent ils se la teignaient en rouge avec de l'ocre ou de l'argile.
Oui, oui, oui.
Et ce Pukao, qui est d'ailleurs taillé dans un autre tuf volcanique que celui des statues, ce n'est pas exactement la même roche volcanique, c'est un tuf rouge qui provient d'une autre carrière. Les statues sont plutôt couleur, ça dépend de l'éclairage évidemment, mais elles sont plutôt grises ou couleur sable lorsqu'on a un beau coucher de soleil. Mais lorsqu'il pleut, et pleut très souvent, elles sont gris-vert. Bon, elles sont parfois plus foncées aussi.
Oui.
Mais je vous dis, tout ça dépend fort de la lumière. Mmh. Tandis que les Pukao sont carrément rouge foncé, rouge ocre.
Oui. Et certaines statues ont des yeux.
Alors, la découverte des yeux est une découverte assez récente.
Oui.
Disons que la première fois qu'on a entendu parler des yeux, c'est en 1935 qu'il y a eu une expédition franco-belge à laquelle participait un grand ethnologue suisse qui s'appelait Alfred Métro, mais qui agissait pour le compte du Musée de l'Homme à Paris.
Oui.
Et un de nos archéologues belges, Henri Lavacherie, ils ont mené une exploration qui a duré plusieurs mois à l'île de Pâques, mais ils ont ramené beaucoup, beaucoup de renseignements. La première fois, l'informateur de Métro lui a parlé des yeux des statues. Mais
oui.
Métro n'a pas fait trop attention. Il en a pris note, ils ont noté le fait, mais on n'avait pas encore trouvé les yeux des statues à l'époque. Le fait est, c'est que quand on voit les statues, elles ont de grandes orbites vides. Donc on peut supposer effectivement que ces orbites étaient destinées à recevoir des yeux.
Ouais.
Alors, le premier œil a été découvert relativement récemment, il y a une trentaine d'années, je pense, maintenant, par officiellement, c'est par un archéologue pascouan qui est devenu gouverneur de l'île de Pâques et qui s'appelait Sergio Rapu. Mais bon, on sait très bien maintenant que c'est pas vraiment lui qui l'a découvert, mais on l'a fait bénéficier de la découverte.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Et alors, cet œil ressemble à quoi et est constitué de quoi?
Alors, c'est un œil blanc. C'est un œil blanc.
Le fond de l'œil blanc, oui.
Le fond de l'œil est blanc. Et au milieu duquel, on insère une pupille, qui est en corail rouge.
Joli.
Alors, ouais. C'est vrai qu'une fois que les yeux, maintenant on a fabriqué évidemment des répliques.
Oui.
On a trouvé qu'un seul œil, à peu près complet, disons au 4/5 complet.
Oui.
Et on a même trouvé la partie de tête avec l'arcade sourcilière dans laquelle ce œil devait s'imbriquer, et il s'imbrique parfaitement bien. Donc là, on est tout à fait sûr que c'était bien destiné à ça.
Mm-hmm.
Donc du coup, maintenant, on est tenté de mettre des yeux à toutes les statues.
Oui.
Et donc on a fabriqué des répliques, et pour certaines grandes occasions, notamment une fête qui se déroule chaque année au mois de février et qui attire des touristes du monde entier, qui s'appelle le Tapati, eh bien là, on orne pratiquement toutes les statues avec des yeux.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que ce regard est tout à fait impressionnant maintenant.
Ah oui, oui, j'imagine. C'est, enfin, quelques dizaines ou quelques... Enfin, j'imagine à l'époque florissante de cette civilisation, quelques centaines de Moai comme ça, qui sont plantés dans des endroits que j'imagine être stratégiques ou bien choisis en tous les cas, de plusieurs mètres de haut avec ce regard et ses yeux rouges, ça devait donner une sensation tout à fait étonnante, et quelle que soit la lumière du jour ou au clair de lune, ça devait être assez fascinant et assez effrayant. Enfin, ça devait être en tout cas quelque chose qui imposait le respect, quoi
qu'il
en soit.
Absolument, oui, oui, tout à fait.
Ouais. Et ces Moai, étonnamment, ne regardent pas vers le large. Ils sont tous tournés vers l'intérieur des terres.
Oui, effectivement. Pour peu que l'on soit sûr, évidemment, de cette orientation.
Oui.
Alors là, c'est discuté. Hein. Ce n'est pas admis par tout le monde.
Oui.
C'est effectivement possible.
Mm-hmm.
Ils tourneraient tous le dos à la mer. Donc tous les aouts sont plantés en bordure de mer. Donc je l'ai dit tantôt, ça,
c'est
ça
les socles, hein, les aouts, voilà.
Ce sont des plateformes, grandes plateformes de pierres, de pierres volcaniques. Et donc ces statues seraient dressées là-dessus. Et on peut en voir redressées maintenant. Et il y a un seul aout qui se trouve non pas tout à fait au centre de l'île, mais enfin quand même dans une position un peu centrale de l'île, qui s'appelle l'aout Akivi, sur lequel il y a 7 statues qui regardent, elles, vers le large. Mm-hmm. Et ce serait, je dis bien, ce serait, tout ça est au conditionnel, ce serait le seul aout à posséder des statues qui regardent vers le large.
Oui, et c'est le seul qui est au centre également de l'île, ou à peu près.
Voilà, à peu près, oui.
Une position stratégique, je dirais, importante en tous les cas.
Certainement importante, mais on ne connaît pas vraiment la raison de cette importance, bien sûr.
Patrick Férine, une nouvelle pause. Vous voyez que plus nous avançons dans l'étude de ce dossier et plus le mystère s'épaissit, plus les points d'interrogation surgissent, évidemment. Nous parlons de l'île de Pâques dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Si vous voulez intervenir, poser une question à mon invité Patrick Férine ou encore apporter un commentaire, si vous aussi vous êtes passionné par ce dossier, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou encore nous envoyer un SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Nous allons, après cette pause, essayer de comprendre comment ces indigènes ont réussi à construire ces statues aussi imposantes.
Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédit sur Sud Radio.
Nous parlons du dossier extraordinaire concernant l'île de Pâques et de ses statues fabuleuses que l'on appelle les Moai, avec mon invité Patrick Férine, qui fait partie du comité directeur d'un magazine que je vous recommande, qui s'appelle Kadath, K-A-D-A-T-H, qui est le nom de ce magazine qui se consacre aux civilisations disparues. Et puis il y a un site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce magazine et vous y abonner le cas échéant. C'est un site internet donc qui est situé en Belgique, puisque Patrick Férine est belge, il est avec nous ce soir donc en direct depuis la Belgique. Le site internet c'est kadath.be, kadath.be. Patrick Férine, j'ai sous les yeux là, parce que nous avons internet évidemment dans le studio, une photo d'un Moai qui a été déterré, qui fait 26 mètres de haut, je crois. Enfin, c'est colossal, les gens qui l'ont déterré, puisqu'il est, on ne voyait que la moitié du buste. Et en fait, il y avait encore toute la partie en dessous qui était enterrée. Évidemment, on se pose la question de la construction, comment ça se passait, combien de personnes il fallait, combien de temps durait la, ne serait-ce que dégager de la roche une statue aussi énorme. Comment l'amener et puis comment la dresser sur son socle quand même?
Alors, il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que toutes les statues qui se trouvent dans la carrière, dans le volcan carrière, le Ranoraraku, toutes ces statues n'étaient pas destinées à être transportées.
D'accord.
Bien sûr, il y a une majorité de statues qu'on retrouve un peu partout sur l'île. Donc, beaucoup ont été transportées, c'est exact.
Oui.
Mais elles sont nettement plus petites que celles que vous décrivez là.
D'accord. Ouais.
Alors, les toutes grandes statues, vraiment ce qu'on va appeler les statues géantes, et il en est même une qui mesure, qui est encore plus grande que ça, mais qui est complètement attachée à la roche par le dos.
Oui.
Elle n'est dégagée que sur les côtés. Ces statues-là, très probablement, n'étaient pas destinées à être transportées.
Oui.
Et là, elles auraient pesé des poids véritablement intransportables quasiment pour les moyens de l'époque.
Oui. Ces statues, un ordre de grandeur à peu près, une trentaine de mètres à peu près.
Comment dites-vous?
Une trentaine de mètres, je dirais, pour les plus grandes d'entre elles, oui. Oui,
oui, c'est ça. C'est ça.
Oui.
Mais donc, celle-là, on peut considérer qu'elle devait faire office de sanctuaire, très probablement. Et elle n'était véritablement pas destinée à être détachée de la roche.
Oui.
Il y en a deux grandes qu'on peut voir sur le flanc extérieur et qui sont vraiment dans cet état-là. La plus grande qui ait été transportée se trouve à une dizaine de kilomètres du volcan.
Oui.
Et le poids doit avoisiner les 80 tonnes, ce qui est quand même colossal.
Oui, joli, oui. Oui, oui. je dois reconnaître que c'est assez énorme. Mais alors, a-t-on une idée de la manière, du temps, du personnel qu'il fallait, ne serait-ce que pour tailler ces statues et les dégager ?
Oui, c'est-à-dire que bon, là, il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment par les premières expériences de ce type-là ont été menées par l'expédition de Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, c'est l'homme du Kon-Tiki, qui a mené de grandes et longues expéditions à l'île de Pâques.
Oui.
Et puis il y en a eu d'autres. Et puis il y a eu des archéologues principalement américains et chiliens qui se sont attaqués au problème de la taille des statues, du transport et de l'érection sur les plateformes.
Oui.
Alors là, il y a plusieurs choses à dire, évidemment. D'abord, nous sommes en présence de tuf volcanique, qui est une pierre qui n'est pas très dense.
Mm-hmm.
C'est une pierre qui est constituée d'alvéoles.
Oui.
Ce n'est pas du basalte. Les outils avec lesquels on a taillé les statues sont des outils, ce sont des marteaux de pierre en basalte. Le basalte est une roche extrêmement dure, évidemment.
Mm-hmm.
Mais le tuf volcanique est très friable. Et un sculpteur expérimenté peut abattre un travail impressionnant en très peu de temps.
Oui.
C'est une roche qui est assez légère aussi. Légère, entendons-nous bien sûr. Hein.
Oui, parce que quand c'est 80 kilos, ça peut être 80 kilos
voilà.
De plume ou de plomb, ça fait 80 kilos quand même. Quoi.
Voilà,
ou là, en l'occurrence, 80 tonnes, c'est
tout
énorme.
À fait,
oui.
Tout à fait, oui.
Et donc, un sculpteur dans ce type de roche peut, un sculpteur expérimenté, comme on suppose qu'ils en avaient évidemment, sinon ils n'auraient pas fait autant de statues, donc peut, là on imagine aisément que un groupe de bons sculpteurs peut abattre du bon travail assez rapidement.
Assez rapidement, oui, tout,
ouais.
À fait,
bon.
Tout à fait. Reste maintenant, bon, les statues sont taillées à mi-hauteur ou bien pratiquement au sommet du volcan. Et la pente est très forte, bien entendu. La difficulté est multipliée par le fait qu'il y a de hautes herbes très grasses qui rend le terrain terriblement glissant.
Oui.
Et puis, on est sur un terrain volcanique, je le répète, donc on se coupe, on se pique partout, le terrain est terriblement accidenté. Donc ils aménageaient évidemment des chaussées, des rampes pour descendre ces statues. Et il le faisait vraisemblablement grâce à un système de poulies. On a retrouvé, c'est d'ailleurs un voyageur français, Francis Mazière, qui, je crois que c'est en 1960, son expédition date de 1963,
mm-hmm.
a été un des premiers à décrire un système de treuil primitif qui se trouve au sommet du volcan Ranuraraku.
Oui.
Donc c'était une série de trous par lesquels on passait des liens constitués de végétaux, évidemment. Il n'avait pas de câble, il n'avait pas de cordage, bien sûr, donc il pressait.
Oui.
Et on passait ces liens dans cette série de trous qui faisaient office d'amarrage, si vous voulez.
De point d'appui,
De point d'appui qui permettait de ralentir et de freiner la descente des statues.
Oui. D'accord.
Alors les statues arrivaient en bas, bien sûr, on espère en bon état.
Oui,
lorsqu'une statue se brisait, et on est certain que beaucoup se sont brisées car elles ont été abandonnées, parce qu'il faut savoir que dans la mentalité polynésienne, à partir d'un moment où un objet est brisé,
mm-hmm.
il est désacralisé. Donc très vraisemblablement, on l'abandonnait à ce moment-là.
Mm-hmm.
La statue perdait son aura, perdait son pouvoir, perdait sa magie.
Ouais.
Elle était abandonnée tout simplement.
Ouais.
Donc là, on sait qu'il y a eu pas mal de rebuts.
Mm-hmm.
Ça se voit. Mais bon, il en reste encore pas mal à transporter. Alors le problème du transport, on a tout essayé. On a tout envisagé, on a tout essayé. Et je le répète, ce qui a frappé les premiers explorateurs, c'est le manque de bois. Il n'y avait plus un arbre sur l'île de Pâques, c'était un caillou nu qui était balayé par les vents, par les pluies, etc. Et bien sûr, ils se sont demandé comment a-t-on pu transporter et ériger de tels colosses sans l'aide de rondins de bois, car c'était la première solution à laquelle on avait pensé.
Oui, évidemment, c'est celle qui vient à l'esprit le plus rapidement. Oui.
Voilà. Alors, on sait maintenant, parce qu'il y a eu des travaux très poussés là-dessus au cours de la dernière décennie, au cours des deux dernières décennies, On sait qu'il y avait de grandes forêts sur l'île de Pâques, on a retrouvé des échantillons, on a retrouvé, grâce à la palynologie, on a retrouvé tout ça. Il y avait même des arbres très impressionnants, des grands pins du Chili, qui pouvaient fournir tout le matériel nécessaire pour tout ça. Donc pour avoir des leviers, des madriers, des poutres, tout ce qu'il fallait.
Oui.
Ils avaient ce matériau à disposition. Et donc on a tenté toute une série d'expériences. Alors il y a une tradition sur l'île qui a été recueillie il y a déjà assez longtemps, et de vieux Pascouans disaient que les statues marchaient, se déplaçaient en marchant.
C'est joli,
et elles
ça.
Se déplaçaient grâce à l'énergie du mana, ce qu'on appelle le mana.
Oui.
Donc
l'énergie mentale.
L'énergie mentale, si vous voulez, ce qui a fait fantasmer pas mal de gens. Bien sûr, on a parlé de lévitation, on a parlé de champs magnétiques très très importants à l'île de Pâques. Bon, Mazière est un petit peu responsable. Là, c'était un monsieur passionnant, Mazière. Moi, j'ai bien connu. C'était un bonhomme extraordinaire, mais c'était un grand romantique, c'était un grand rêveur aussi, et il s'est un petit peu emballé à certains moments.
Oui.
Mais on a parlé de tout ça, et ce sont des choses qui traînent dans une certaine littérature.
Mm-hmm. Bon, il y a même l'hypothèse extraterrestre également.
Oui,
concernant,
mais bien sûr, mais l'hypothèse extraterrestre, on la retrouve partout.
Oui, je vous l'accorde.
Voilà. Heureusement qu'on a des documents qui concernent la construction de la Tour Eiffel, sinon les extraterrestres seraient probablement responsables aussi. Donc, existent les extraterrestres à l'île de Pâques.
Très bien.
Ce sont des monuments.
C'est compris.
Faits pour des hommes, par des hommes.
Voilà.
Et donc, ils l'ont fait. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils l'ont fait. C'était des gens très ingénieux.
Mm-hmm.
Ils ont utilisé les ressources dont ils disposaient et ils ont accompli de véritables prouesses. Évidemment, quand on voit ça maintenant, on se retrouve au pied d'un colosse comme ça, on se dit, mince, c'est pas une petite affaire, évidemment.
Ouais.
C'est bien clair.
Donc,
mais ils ont réussi. Alors, l'hypothèse la plus vraisemblable, elle tient la route, c'est que, effectivement, peut-être que ces colosses, on les redressait. On avait évidemment auparavant aménagé une chaussée relativement plane, je veux dire, et ces colosses, on les déplaçait à l'aide de grands cordages, de longs cordages, et on les faisait tournoyer sur eux-mêmes. Un petit peu de la manière dont vous déplaceriez un frigidaire dans votre cuisine.
Oui, c'est-à-dire
vous
par
n'allez
un coup
pas le
comme
coucher
ça.
Sur des madriers et le traîner.
Ouais.
Vous allez le déplacer peut-être à deux ou trois personnes. On va empoigner ça. On va soulever trois des quatre pieds et puis on va le faire pivoter
exact.
Sur le pied restant, etc., etc. Ça a été réalisé. Ça paraît peut-être fantaisiste parce qu'on va on va objecter tout de suite que de grandes statues très pesantes,
15-20 mètres de haut. Pour la faire bouger comme ça, c'est quand même...
Oui, enfin, la plus grande qui ait été déplacée ne mesure pas vraiment ça. Hein. Je crois que sa hauteur doit avoisiner les 12 mètres, si je me souviens bien.
Ah oui, quand même, oui.
Voilà, donc 12 mètres, évidemment, c'est impressionnant, mais
ça
on n'est pas
immeuble,
dans les
quand même.
30
oui.
mètres.
Oui.
Il n'empêche que, bon, c'est faisable, ça a été réalisé par... plusieurs ingénieurs, par plusieurs archéologues.
Mmh. C'est ce qui fait dire aux anciens, donc, ça corrobore cette phrase poétique, les statues marchaient.
Voilà.
Donc, elles donnaient l'impression de marcher,
elles
vraiment.
Elles donnaient l'impression de marcher. Effectivement, bon, il y a dû y avoir des échecs, bien sûr, parce que, à certains moments, des statues ont dû tomber.
J'imagine, oui.
Voilà.
Oui.
C'était quand même une entreprise très hasardeuse, mais c'est tout à fait réalisable.
Mmh. Et alors, il les déplaçait donc debout et ensuite pour les mettre sur, comment vous appelez ça, sur les haous.
Sur les plateformes.
Sur les plateformes.
Oui.
Là, franchement...
Alors maintenant, on ne peut pas jurer non plus que toutes les statues ont été déplacées de cette manière-là. Il est plus que probable que ce mode de déplacement ait été adopté pour certaines statues et peut-être qu'un autre mode, combiné avec un autre mode de transport aussi. On a peut-être utilisé différentes méthodes.
Oui.
C'est selon le terrain, parce que le terrain n'est pas identique partout.
Mm-hmm.
Il y a des endroits, donc quand on est au pied du Rano Raraku, il y a des pentes très fortes, évidemment. Il y a des dénivellations importantes.
Oui.
Et puis, à d'autres endroits, il y a de véritables ravins. Il va falloir passer là au-dessus. Et alors là, évidemment, se posent d'autres questions, bien sûr. Et puis on va se retrouver en bord de mer, où là, c'est rempli de galets. Même si on aménage des rampes, il y a quand même des blocs de rochers qui sont impressionnants et qu'on n'a certainement pas déplacé à ce moment-là. Donc, on a dû très vraisemblablement utiliser des modes de transport différents à certains moments, à certaines occasions.
Oui, mais point de mana ou d'énergie mentale particulière.
Pas que je sache, non. Ou alors en tout cas, ça reste à démontrer.
Oui, je vous sens très sceptique sur ce coup. Hein.
Quand même, oui, oui. plutôt. Alors, arrivé au pied de la plateforme, au pied de la houe.
De cette houe, oui.
De cette houe, qui est parfois, parfois il n'est pas très élevé, mais parfois il fait 2-3 mètres de hauteur et parfois même davantage à certains endroits. Parce qu'il est véritablement en bordure de mer, le dos de la houe est véritablement en bordure de mer, et c'est là, si y a chute, eh bien vous vous retrouvez 10-15 mètres plus bas peut-être, et voire davantage. À
et là, c'est mort, c'est foutu. Ouais.
Bien sûr. Alors là, très probablement un système de rampe faite de blocs de pierre, et le tout complété par des rondins, des troncs, et peut-être de la patate douce ou des herbes mouillées pour augmenter pour diminuer le frottement, etc.
Ouais.
Et puis bon, là, de l'huile de bras, bien sûr,
j'imagine,
et de bons ingénieurs.
Ouais.
Mais ils y sont arrivés, en tout cas.
Mais alors, on va faire une pause, Patrick Ferrine, et après, savoir ce qu'est devenue cette civilisation, parce que visiblement, celle qui a été découverte par Jacob Reggeven en 1722 n'avait pas l'air d'être en état de réaliser de telles prouesses technologiques. Donc, que sait-on de l'histoire de cette civilisation avant qu'il n'ait été découvert par les Occidentaux, entre guillemets? Et puis, est-ce qu'on a réussi à dater à peu près ces Moai pour avoir une idée de leur évolution dans le temps? Vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à explorer ce dossier mystérieux et passionnant de l'île de Pâques.
Les Aventuriers de l'Étrange avec Louis Benedi sur Sud Radio.
Nous sommes quelque part au milieu du Pacifique, et là vraiment pour le coup au milieu du Pacifique, ou presque, sur l'île de Pâques, une toute petite île qui fait à peine 118 km². Patrick Ferrine, mon invité, qui s'y est rendu deux fois, qui a réalisé un documentaire d'ailleurs sur l'île de Pâques, nous a même précisé que la plus grande ligne droite sur cette île fait à peine une vingtaine de kilomètres de long. Nous parlons des Moai, de ces statues qui peuvent peser jusqu'à plusieurs tonnes, 80 tonnes pour la plus lourde, qui peuvent mesurer très haut. Certaines font quelques mètres de haut à peine, pour certaines qui font presque 30 mètres de haut. Et Patrick Ferrine, c'est toutes les hypothèses que vous nous avez évoquées concernant le déplacement et la mise en place de ces statues est finalement maintenant quasiment connue. Je veux dire, la communauté scientifique s'accorde pour dire que il y avait de l'ingéniosité, il y avait évidemment beaucoup de travail, mais que c'était faisable.
Oui, là, je crois que c'est indéniable. Oui, tout à fait.
Ouais. Et alors, est-ce que on a quand même réussi un peu, enfin, ou tenté de réussir à comprendre l'utilisation de ces Moai, parce que ça a nécessité, je l'imagine, énormément de main-d'œuvre, de travail. Des hommes ont dû y consacrer, si ce n'est leur vie entière, du moins une grande partie de leur vie à l'érection de ces statues. Et on ne fait pas ça pour rien.
On ne fait pas ça pour rien, effectivement. On ne fait pas ça pour rien. Bon, il faut savoir que dans la Polynésie, et principalement du côté des Tuamotu par là-bas, c'est une tradition. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes. Là-bas, c'est rectangulaire,
oui.
Qui sont des sanctuaires. Et ça s'appelle d'ailleurs, ça porte le même nom qu'à l'île de Pâques, ça s'appelle des Aou sur les toits.
Ah oui, il y a vraiment cette similitude. Donc.
Ah
d'accord.
Oui, il y a vraiment cette similitude. Voilà.
Oui.
Et donc, on parle des Tuamotu, on parle des îles Marquises, etc., qui sont des lieux qui ont de nombreux points communs avec l'île de Pâques, évidemment. Et là, on trouve donc des marae, ce sont des sanctuaires, ce sont des grandes plateformes, ce sont des, disons...
des hôtels.
Ce sont des hôtels, si vous voulez, voilà, ce sont des hôtels qui portent des dalles, quelquefois des statues de pierre, bien sûr, et qui représentent sont les insignes de la chefferie. Ça représente évidemment, ça peut représenter le chef lui-même.
Oui.
C'est là que les chefs allaient consulter les dieux peut-être. C'est là que les chefs se réunissaient, c'est là qu'avait lieu toute une série de cultes. Et donc, ces plateformes sont de véritables sanctuaires. Et ces dalles ont parfois un visage, une forme humaine.
Oui.
D'autres ont véritablement une silhouette tout à fait anthropomorphe. Et ça s'appelle des tilles là-bas. C'est un mot par lequel les Tahitiens et les Marquisiens désignent une image humaine.
Oui.
Bon. La stèle la plus importante qui se trouve sur un marae, ça s'appelle le Tapao Ariki. Ça veut dire c'est le signe du chef.
Et le mot Ariki que l'on retrouve également accolé Moai Ariki. Oui.
Voilà, et qui signifierait le roi. Alors, il est possible effectivement que ces statues représentent les différents rois de l'île de Pâques.
Oui.
Donc il y en a eu toute une série. Chaque, si ce n'est pas un roi, c'est un chef de clan.
Oui.
Ou en tout cas un personnage extrêmement important.
Mm-hmm.
On ne peut pas encore affirmer à l'heure actuelle que les 900 statues de l'île de Pâques représentent un roi de l'île de Pâques. C'est du domaine de l'hypothèse. Il y en a peut-être qui représentent des rois, il y en a peut-être qui représentent d'autres personnages. Ça, on ne le sait pas.
Oui. Mais en revanche, on n'a aucune idée du culte, parce que c'était vraisemblablement un lieu cultuel, évidemment, un lieu sacré, un sanctuaire.
C'était un lieu sacré. Encore une fois, si on se reporte aux tout premiers explorateurs européens, donc je parle de Roggeveen, je parle de Cook,
oui.
La Pérouse y est allée aussi. Mais le comportement de la Pérouse a été tout à fait différent. C'est quelqu'un qui a fait honneur à la France, je veux dire, et qui a eu un comportement extrêmement pacifique.
Oui.
Mais c'est probablement le premier.
Oui, c'était un humaniste.
C'était un humaniste, voilà.
Un vrai, oui, c'est
voilà.
Vrai. Oui.
Mais bon, les autres ont quand même décrit que les indigènes se regroupaient autour des Aous et plaçaient leurs mains jointes au-dessus de la tête et semblaient adorer les statues. Mais c'est vraiment une information qui ne nous mène pas très très loin, quoi. On sait vraiment très peu de choses à ce propos-là.
Oui, donc tous les rituels liés à ces Moai ont totalement disparu.
Ont totalement disparu. Et d'ailleurs, certains appartenant à ces premières expéditions ont même dit que les indigènes se désintéressaient complètement de ces monuments, que ces monuments n'avaient même plus l'air de les concerner.
Mais en ce qui concerne maintenant le visage, Ce visage qui est représenté, j'ai lu dans certains livres concernant l'île de Pâques, c'est peut-être une hypothèse totalement fantaisiste, que la morphologie des visages ne correspondait pas à la morphologie, je dirais, classique des indigènes, donc de l'île.
Mais là, c'est très difficile à dire, parce que quand vous voyez une statue typique de l'île de Pâques, il faut bien se dire que c'est pas une représentation naturaliste, c'est extrêmement stylisé.
Oui.
C'est un style d'ailleurs tout à fait extraordinaire,
qui est vraiment très beau, unique
au monde. Mais bon, c'est une figuration très très symbolique. Le front est très petit. Le nez est gigantesque, les oreilles sont démesurées,
oui.
Le menton est un peu prognate, très très proéminent, la moue est vraiment dédaigneuse, c'est l'expression qu'on emploie par excellence, ce regard devait figer les gens qui se trouvaient au pied,
oui.
du monument, les mains sont accolées au corps et ces longs ongles se rejoignent à hauteur du nombril ou un peu en dessous.
Mmh.
Bon, ça devait effectivement être très impressionnant, mais y voir une figuration humaine est assez hasardeux, quoi. C'est pas une représentation d'un personnage. Si, c'est une représentation certainement très stylisée,
oui.
Très idéalisée. Maintenant, il faut savoir aussi que toutes les statues, si elles ont grosso modo, parce qu'on peut distinguer des types différents dans la statuaire pascouane, il y a quelques, disons, je vais aller très vite là, mais sans rentrer dans les détails, on peut dire qu'il y a peut-être trois grands types de statuaire pascouane. Mais bon, la statue par excellence de l'île de Pâques, celle qu'on représente partout, avec son poucao de tuf rouge au sommet du crâne, qui n'était posé que lorsque la statue était dressée, selon la tradition, paraît-il.
Oui.
À ce moment-là, et on plaçait les yeux et la statue vivait, elle il possédait le mana à ce moment-là, une fois que les yeux étaient placés. Ça, c'est une chose qui se retrouve dans d'autres cultures aussi. On donnait la vie au monument, à la statue, en plaçant les yeux, le regard, évidemment. Qui signifie la vie à ce moment-là. Ces statues, malgré tout, si on peut dire qu'elles ont, elles procèdent du même style, c'est la même esthétique, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas deux moai qui sont identiques. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Donc il est très possible, effectivement, que ça représente des personnages différents, bien sûr.
Mais alors, vous êtes allé, vous nous avez dit, à 20 ans d'intervalle, deux voyages, Patrick Férine, sur cette île de Pâques. Lors de votre dernier voyage, qu'avez-vous vu et qu'avez-vous ressenti? Parce que vous y êtes allé dans le but de réaliser un documentaire.
Oui, tout à fait. Oui. En fait, je suis allé avec un ami qui est guide et voyageur et qui lui est allé un plus grand nombre de fois que moi. En tout, nous sommes allés tous les deux, nous sommes allés 7 fois. Ouais. Lui est allé 5 fois. Lui a une très très grande connaissance de l'île, de son histoire et des habitants. Davantage que moi, je vais dire. Moi, je connais peut-être un peu mieux la partie historique. Lui connaît plus la partie, disons, actuelle de l'île de Pâques. Mais donc, je ne suis pas embarqué sans biscuits, je veux dire, je suis allé avec quelqu'un qui connaît très bien le terrain. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis allé il y a 20 ans, c'était une population qui vivait dans des conditions extrêmement précaires. Il y avait quelques pensions de famille dans lesquelles on pouvait loger, disons, plus ou moins confortablement. Ce ne sont pas du tout les mêmes normes de confort que nous connaissons chez nous, bien sûr. Oui. Mais bon, le confort y était relatif. Il y avait quelques véhicules sur l'île, il y avait quelques motos déjà. On commençait à voir... Il y avait une discothèque qui venait de s'ouvrir. On voyait les signes du progrès.
Entre guillemets.
Voilà. Maintenant, une génération après, il n'y avait pas de route quand je suis allé non plus. Il fallait se déplacer à cheval. On pouvait louer des jeeps. C'était extrêmement cher et elles étaient dans un état très relatif. On tombait très souvent en panne. Mais il fallait louer une moto qui ne démarrait pas. Les bougies étaient foutues. Il y a beaucoup d'humidité là-bas. Le mieux, c'est de se déplacer à pied. Mais quand on a du matériel, c'est pas toujours, toujours facile. Oui. Mais bon, il y avait moyen. Mais tout ça restait très... C'était encore du domaine pratiquement de l'aventure, de l'exploration. Maintenant, vous arrivez sur l'île de Pâques, vous débarquez là, tout le monde vous attend à l'aéroport, il y a des minibus, il y a énormément de véhicules, il y a une circulation pas possible dans ce tout petit village, il y a deux grandes rues, il y a des embouteillages.
Non.
Il va bientôt y avoir un feu, des signaux lumineux, je crois, c'est imminent. Il y a des télévisions partout, bien entendu. Maintenant, il y a Internet partout. Tous les passe-couants ont Internet. C'est un cadeau, entre guillemets, qu'on leur a fait. C'est gratuit. Ils ont tous Internet. Ça fait des ravages pas possibles.
J'imagine.
Tout est organisé. Il y a un tourisme qui se développe qui est incontrôlé pratiquement, qui est contrôlé en partie, mais tout ça part un peu dans tous les sens et ça donne une image de l'île de Pâques qui est évidemment très très différente de ce que j'ai vu il y a à peine 20 ans.
Oui.
Et ça déstabilise surtout complètement la société qui vit là-bas.
C'est-à-dire dans quel sens?
Alors c'est à peu près dans tous les sens parce que il y a une partie de la société pascouane. Je ne l'ai pas encore dit, mais il y a un village à l'île de Pâques. C'est pas une ville, mais c'est un village, c'est Angaroa, qui s'étend un peu sur une autre partie qui s'appelle Mataveri. Mais donc il y a un lieu de
habité,
vie véritablement
oui,
habité. Il y a deux grandes rues et puis il y a des rues, des petites avenues adjacentes. Il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a plus qu'une discothèque, il y en a presque une dizaine évidemment. Il y a un cybercafé, tout ça est en place sur l'île de Pâques. La population qui vit à l'île de Pâques maintenant est très 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 désorientée. Une grosse partie de la population est très désorientée, très déstabilisée. Alors il y a une partie des passe-couants qui ne sont peut-être plus des vrais passe-couants, qui sont peut-être des Chiliens ou des Polynésiens, qui s'est recyclé dans le tourisme et qui se débrouille bien. Et puis il y a une autre partie, bien sûr, qui n'a pas accès à tout ça. Et puis il y a bien entendu, comme partout, il y a une partie de laisser pour compte, bien sûr. Il y a des gens qui peuvent pas se faire à tout ça et qui refusent un peu ce mode de vie-là. Il y a des gens qui tiennent à leur mode de vie très traditionnel, bien entendu, et qui voient arriver des touristes du monde entier. Et on vient véritablement à l'heure actuelle du monde entier, de partout. Et il faut imaginer, il n'y a pas de port, véritablement de port. Il y a une jetée, bien sûr, mais l'accès est très difficile parce qu'il y a des grands fonds marins, il y a des rochers, il y a des courants qui sont très très difficiles. Donc les bateaux ne peuvent pas accoster. Les bateaux restent au large. Moi, j'ai vu arriver comme ça de véritables villes flottantes. Ce sont des bateaux, mais gigantesques. C'est absolument monstrueux. Il y a des milliers de passagers à bord.
Les fameux bateaux croisières, oui.
Des bateaux croisières. Ouais. Bon. Alors, ils sont dans la baie de ce petit village qui est la baie d'Angaroa. Ils attendent là. Et puis, il y a des barges qui vont chercher les touristes qui débarquent, mais véritablement par centaines, par milliers. Et ils attendent sur le port, et puis là, ils sont pris en charge par les autorités, parce que bien souvent, ils n'ont pas la permission de débarquer, d'aller partout dans l'île. Donc il y a des barrières, tout le monde est en file indienne, et puis il y a des petits minibus qui vont emmener ces gens, ces touristes d'un jour pour la plupart, qui vont aller visiter le site qui est le plus proche du port, ou les deux ou trois sites qui sont pas trop éloignés, ou pour les plus chanceux parmi eux, ils vont parcourir la petite vingtaine de kilomètres, ils vont aller jusqu'au volcan Ranuraraku, voir la carrière des statues, et puis c'est retour, et puis on repart sur le bateau, et le lendemain matin, le bateau a disparu. Et donc ces gens sont des touristes d'un jour pour la plupart, ça c'est vraiment un tourisme de masse, je vais dire, bien sûr, il y a des gens qui restent parfois plus longtemps, heureusement, mais le tourisme de masse, c'est véritablement ça. Ces gens ne consomment rien sur l'île de Pâques, tout est payé à l'avance, ces gens logent sur le paquebot, les repas sont pris à bord, ils vont simplement dépenser un tout petit peu d'argent à acheter quelques pauvres souvenirs, parce que malheureusement tout ça a généré un commerce qui est assez déplorable. Bon, on peut pas empêcher les gens de gagner leur vie, bien entendu. Alors il y a des petits artisans, il y a qui font des petites statues.
Évidemment, qui font des répliques. Ben oui, bien sûr, on s'en doute bien.
La plupart du temps, de très mauvais goût, et bon, c'est très laid, et ça se vend pas trop cher, et ça leur permet de gagner un peu de sous, bien entendu. Il y a cet aspect-là. Mais tout ça engendre des tas de choses qui un petit peu dans le même style, quoi. Mais surtout, ce que les touristes du monde entier apportent là, c'est une fenêtre sur le monde, bien entendu. Et cette société, qui est une société très traditionnelle, traditionnaliste, pour laquelle le clan et la famille sont des choses tout à fait primordiales, cette société se voit complètement déstabilisée par l'arrivée de ces touristes qui viennent de partout. Mmh. Et qui apportent évidemment, qui montrent un autre mode de vie, d'autres mœurs, d'autres façons d'être. Et comme je l'ai dit, ils ont reçu un cadeau qui est un peu un cadeau empoisonné. Ils ont reçu Internet, une compagnie chilienne, mais on sait maintenant que c'est une compagnie américaine qui est là derrière, a offert Internet à tous les habitants de l'île de Pâques. Pour encourager les Chiliens à s'équiper.
Oui.
Bien entendu, c'est une opération tout à fait, une opération de marketing. Les passe-couants qui, moi je connais des passe-couants qui vivent dans des conditions tout à fait
misérables,
très précaires.
Ouais.
Ce sont des cabanes avec des toits en tôle ondulée. Il y a le sol, c'est de la terre battue. Il y a une table branlante. Il y a quelques chaises peut-être. Il y a un réchaud qui est par terre. On dort sur des nattes. Le frigo est à l'extérieur. Il est branché au premier poteau électrique qui passe par là.
Ouais.
Ils vivent dans des conditions pareilles et ils ont Internet. Alors, ils voient évidemment par Internet tout ce qui se passe dans le monde. Le monde vient chez eux. Et bien sûr, ça déstabilise complètement la société et ça a des effets terriblement pervers.
C'est pas le meilleur cadeau qu'on avait à leur faire, hein.
Je ne sais pas. Il y avait peut-être d'autres choses plus prioritaires. Maintenant, la grande question, évidemment, c'est qu'il est, très difficile de lutter contre des choses pareilles. Parce que on ne peut pas non plus, au nom de quoi pourrait-on empêcher ces gens de vouloir accéder à ce qui nous fait tous rêver ici.
Bien sûr.
Et qui fait rêver tout le monde entier pour le moment.
Ouais. Ouais.
Donc là, évidemment, il y a une question d'éthique, bien entendu. Mm-hmm. Mais, je dis, l'arrivée de tous ces nouveaux moyens, et de ce tourisme complètement débridé, est en train de déstabiliser complètement cette société qui était déjà vraiment rescapée, quoi.
Ouais. Patrick Férine, vous restez avec nous une dernière pause avant d'en arriver à la conclusion et Pierre Macias viendra nous rejoindre pour cette conclusion précisément pour parler d'un livre qu'il a reçu et un petit bouquin tout à fait intéressant. D'ailleurs, vous avez cité le nom, c'est un des explorateurs qui a mené une mission intéressante, il s'agit de La Vacherie. On en parlera dans quelques instants avec vous et nous conclurons sur ce dossier passionnant de l'île de Pâques et de ses statues célèbres, les Moai.
Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédi sur Sud Radio.
En compagnie de Patrick Férine, qui est avec nous en direct depuis la Belgique. Patrick Férine, qui est membre du comité directeur de cette revue tout à fait passionnante, qui s'intéresse aux civilisations disparues. Cette revue s'appelle Kadath, K-A-D-A-T-H, et il y a un site internet que je vous recommande pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur cette revue, éventuellement vous procurer les anciennes revues sur des sujets qui vous intéressent, je ne sais pas moi, comme l'Atlantide par exemple, comme Stonehenge, dont on parlera, ou d'autres civilisations disparues, et puis peut-être cela vous donnera envie de vous abonner à cette revue. Donc le site internet c'est kadath.be, je vous rappelle l'orthographe exacte de Kadath, kadath.be. Le BE, c'est un site internet donc hébergé en Belgique. Pierre Macias vient de nous rejoindre également. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Louis. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Pierre.
Alors, tu nous parleras dans quelques minutes de deux livres intéressants au sujet de l'île de Pâques. Mais pour conclure, Patrick Férine, dites-nous un petit peu les statuts, parce que je ne sais pas comment ça se passe sur l'île de Pâques. Il y a un gouvernement, j'imagine. Il doit y avoir au niveau législatif un gouvernement, des élections, quelque chose comme ça, non?
Oui, tout à fait. Alors l'île de Pâques est chilienne.
Ah, d'accord, très bien.
Faut pas oublier ça, c'est très important.
Voilà. Ouais, ouais.
Parce que bon, il faut bien dire que toutes les décisions concernant l'île de Pâques se prennent à 4000 kilomètres de là. Et c'est une chose que les passe-courants. Les vrais passe-courants, de souche, apprécient très peu, évidemment.
Oui, ça, j'imagine.
C'est évidemment source de conflit là-bas. C'est bien clair. Maintenant, il y a un conseil, il y a un gouverneur, à l'île de Pâques, bien sûr. Mmh. Il y a un chef du conseil des anciens, il y a un conseil des anciens, bien entendu.
Ouais.
Et, il y a différentes autorités là-bas qui prennent des décisions et qui sont en passe de prendre des décisions extrêmement importantes pour le futur de l'île. L'île de Pâques est entrée maintenant dans le flux de la mondialisation.
C'est clair. Ouais.
Et c'est là le phénomène le plus grave. Mmh. Et l'île de Pâques peut rebasculer dans une situation vraiment dramatique si les choses se passent mal. Et disons que certains essayent de mettre en place des barrières, certains sont attentifs à tout ça, certains estiment qu'il faut pratiquer un tourisme responsable là-bas, il y a des organismes, il y a des associations.
Bien sûr,
mais bon, c'est comme partout, il y en a qui sont pas d'accord avec ça, et il y en a qui contestent ce genre de choses-là, et qui ont en tête des projets complètement absurdes pour l'avenir de l'île, et très dangereux, évidemment.
De quel style ?
Par exemple, on veut construire un casino sur l'île de Pâques. On veut construire un hôtel 5 étoiles avec grande piscine. On veut construire un club de golf dans la plus belle clairière de toute l'île. C'est-à-dire que ça va complètement défigurer, non seulement ça va défigurer le paysage, l'île elle-même, ça va être complètement incongru là-bas. Il y a beaucoup d'intérêt derrière tout ça.
Bien sûr.
Donc l'île de Pâques est un lieu qui est terriblement visité maintenant. Le Chili se sert de l'île de Pâques, c'est une carte de visite extraordinaire évidemment. Mmh. Le Chili a des monopoles terribles et très pesants sur l'île de Pâques. Et les Pascouans n'apprécient pas du tout ça. Donc les Pascouans, il y en a qui sont en train de se battre et qui militent pour un statut tout à fait spécial. Une autonomie, ça, ils ne l'auront jamais, évidemment, parce que l'île de Pâques appartenant au Chili, il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu.
Oui.
Et il y a surtout un intérêt stratégique. C'est une chose dont on n'a pas eu l'occasion de parler, mais c'est très important. L'île de Pâques est en plein milieu du Pacifique. C'est une position stratégique absolument de premier ordre.
Ouais.
Et lorsque vous imaginez, lorsque vous réfléchissez un petit peu, savoir quels sont les plus gros intérêts qui se trouvent au Chili, ce sont des intérêts américains, évidemment.
Évidemment. Ouais. Donc il est hors de question de laisser partir...
Donc il est hors de question, évidemment, ouais. de lâcher. Hein, quelqu'un avait dit à un politicien... chilien, vous avez un diamant en main. L'île de Pâques, c'est un diamant que vous avez en main, évidemment. Ça se comprend très bien, évidemment.
Ouais. Mais quid des statues et des sites archéologiques, quand même?
Alors, les statues et les sites archéologiques, il y a une commission de protection de... Il y a des parcs nationaux.
Oui.
Et il y a une direction qui s'appelle la CONAF, qui est un organisme mis en place par le gouvernement chilien. Et qui s'occupe maintenant de la protection du parc. C'est un grand parc national archéologique,
ouais,
de Pâques.
Ouais.
Donc on ne va plus où on veut, comme on veut.
Ce qui est tant mieux, finalement.
Ce
oui.
qui est tant mieux, ce qui est très bien. Il y a une préservation qui est organisée. Ils sont même assez stricts, ce qui est fort bien. Ils sont tout à fait civils et tout à fait bienveillants, mais
oui.
ils font très attention à leur patrimoine. Et là, c'est une bonne chose, effectivement.
Est-ce qu'il y a des restaurations, des fouilles, des recherches qui continuent?
Il y en a toujours. Depuis déjà maintenant quelques décennies, il y en a pratiquement tout le temps. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas en même temps qu'une petite expédition belge. À l'heure actuelle, ils y retournent pour je crois que c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'ils y retournent.
Oui.
Et ils font très modestement avec de tout petits moyens. Nous sommes un minuscule petit pays, évidemment, nous avons des moyens très, très petits aussi. Et, ce sont des moyens très modestes, mais ils font un travail tout à fait extraordinaire. Et qui nous invite tout à fait à reconsidérer l'image que nous avons de l'île de Pâques, de ses statues posées sur des ahous, qui représentent un peu un cliché, et qui font qu'on doit vraiment s'interroger parce que beaucoup de choses sont en train d'être remises en question. Les livres foisonnent d'hypothèses et de représentations, et on a une image un petit peu figée de l'île de Pâques, et on se rend compte maintenant, grâce à des travaux assez récents, et pas uniquement de cette petite expédition belge, mais de plus grandes missions américaines ou d'autres missions, que on commence à peine à lever un voile des énigmes de l'île de Pâques.
Ouais. Comme par exemple l'origine de l'écriture, le Rongo Rongo.
Oui, alors là on est plongé en pleine... Là, les énigmes se foisonnent, évidemment. On n'est même pas sûr à l'heure actuelle qu'il s'agisse bien d'une écriture. Et là, c'est la bouteille à encre, c'est le cas de le dire. Il y a les théories les plus fantaisistes avoisinent avec d'autres un peu plus sérieuses. On ne sait toujours pas lire. Personne à l'heure actuelle n'est capable de lire une des tablettes de l'île de Pâques ou l'écriture Rongo Rongo.
Ouais, ce sont des signes comme des hiéroglyphes, des
voilà,
représentations graphiques.
Voilà, on peut apparenter ça à des hiéroglyphes, effectivement. Il y en a un nombre assez important. Tout ça a été répertorié.
Oui, oui, oui. C'est sur des tablettes de bois, je crois.
C'est sur des tablettes de bois, principalement. Ouais. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas énormément non plus. Hein. On n'est pas dans le cas de la bibliothèque de Ninive où là on parle par centaines de milliers de tablettes. Non, ici je crois qu'on a je crois que c'est 26 tablettes en tout et pour tout qui sont connues dans le monde.
Ouais.
Donc c'est très peu.
Ouais.
Au total, il y a quand même un nombre assez important de signes hiéroglyphiques qui a été répertorié, mais on n'est pas encore très avancé.
Oui.
On n'est pas encore très avancé là.
En ce qui concerne, est-ce qu'on a pu établir une datation des Moai? Je suppose qu'il y en a des anciens, des plus récents, enfin ça doit s'étaler sur plusieurs dizaines d'années, voire des siècles.
Oui, tout à fait. Alors là, on ne peut pas dater la pierre, évidemment,
c'est
pas possible. Donc on doit dater les vestiges qu'on trouve autour, on doit procéder par de la stratigraphie et des choses comme ça. Bon. Là aussi, on se rend compte que beaucoup des dates qui ont été avancées, eh bien, on va probablement devoir les reconsidérer. Parce qu'il reste trop de travail à faire. Il y a encore énormément de vérifications à faire que pour avancer quelque chose. Métro, lorsque Métro, vous parliez de l'expédition de 1935,
oui.
dont Pierre voulait citer mm-hmm. un livre qui s'y rapporte, donc l'expédition de Métro et de la Vacherie, Métro, déjà en 1935, avait réussi à établir à peu près l'âge du débarquement des premiers Pascouans. Et il était arrivé en se basant sur des noms de rois qu'on lui avait fournis,
oui,
que son informateur
oui.
lui avait fourni. Il était arrivé à déduire que le voyage du premier roi mythique, le fondateur, le père fondateur, je veux dire, qui s'appelait Otumatua, ce voyage se placerait grosso modo au cours du XIIe siècle.
Ah oui, effectivement. Oui.
Voilà. Eh bien, on se rend compte maintenant qu'en fait, Métro, il n'était pas très loin de la vérité. Il n'était pas très loin de la vérité, et que les premières statues, les plus anciennes statues, eh bien, n'auraient que quelque chose, une ancienneté de 700 ans, quelque chose comme ça.
Oui, ce qui est pas mal, 7 siècles quand même.
C'est, voilà, c'est... voilà. Et bon, ben, on est à peu près à ça. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines datations qui font remonter cela à quelques siècles auparavant.
Oui.
Mais ces datations sont tellement... Ce sont d'infimes petites choses, c'est une datation, une date par ici, alors qu'il y a, je veux dire, il y a plus de 300 plateformes, il y a un millier de statues probablement,
et
alors il y a encore tous les autres sites archéologiques, parce qu'il n'y a pas que des Aou et que des statues à l'île de Pâques, il y a quantité d'autres choses bien sûr, comme vestiges archéologiques, donc il y a encore énormément à faire et plein de datations à faire.
Oui. Pierre Macias, tu as deux livres à nous recommander pour ceux et celles qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin dans ce dossier et de lire à la maison tranquillement à tête reposée de quoi se nourrir sur l'île de Pâques.
Oui, alors essayer d'aller un petit peu plus loin en fait en retournant un petit peu dans le passé.
Oui, oui, oui.
Patrick Ferrine a évoqué l'expédition de Métro et la Vacherie.
Oui.
Et à ce propos, donc, j'ai trouvé deux références. Une, c'est l'île de Pâques de Alfred Métro aux éditions Gallimard.
Mm-hmm.
Les manques de chance, il n'est plus édité actuellement. Il faudra essayer de le retrouver en occasion.
Oui, sur les sites internet, on devrait pouvoir peut-être le retrouver. Oui, je pense,
ça devrait se retrouver. Oui, je l'ai vu passer plusieurs références déjà.
Oui, c'est un grand classique.
Oui.
Et donc, un autre ouvrage, c'est l'île de Pâques 1934. De Thomas Lavacherie, qui est en fait le petit-fils de Henri Lavacherie,
qui a fait l'expédition avec Métro. Oui.
Et on raconte, en fait, c'est une sorte de carnet de bord de l'expédition, vu du côté Henri Lavacherie, et qui retrace donc toutes les étapes, comment ils sont arrivés, pourquoi d'abord ils se sont engagés dans cette expédition. Comment ils sont arrivés à l'île de Pâques, ce qu'ils ont fait sur le terrain. Et donc, ça permet d'avoir un panorama, je pense, un petit peu plus général de l'île de Pâques.
Oui.
C'est un livre remarquable.
Je crois. Il donne pas mal de références, pas mal de points d'entrée
pour qui veut
s'intéresser à l'île de Pâques sous beaucoup d'aspects.
Oui.
Et Thomas Lavacherie a d'ailleurs fait un film que je vous engage à voir, que je vous engage à trouver, qui existe en DVD, qui raconte donc l'histoire de son grand-père à l'île de Pâques. Et c'est un film superbe.
Oui.
C'est un des plus beaux que j'ai vu sur l'île de Pâques.
Oui.
Et effectivement, c'est l'île de Pâques de Thomas Lavacherie et Denis Roussel. Et on doit le trouver aux éditions Alligator à Bruxelles.
Très bien. Patrick Ferrine, pour conclure, votre documentaire qui est passé sur une chaîne belge, c'est ça ?
Il n'est pas encore terminé.
Ah, il n'est pas encore terminé ?
Non, très bien. Il est loin d'être terminé.
Bon, parfait. Alors, quand ça passera, vous nous le direz, qu'on puisse en parler quand
Avec
même.
Avec grand plaisir. Oui.
Bien. En tous les cas, Patrick, merci beaucoup de votre gentillesse et de nous avoir servi de guide pour ce dossier passionnant concernant l'île de Pâques. Et puis, on vous retrouvera avec Jacques Gossard dimanche prochain pour aller sur un autre site archéologique tout aussi passionnant, celui de Glozel, et nous serons en France, là, cette fois-ci.
D'accord, avec grand plaisir.
Merci. Bonne fin de soirée, Patrick.
Bonne fin de soirée.
À très bientôt. Dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Pierre Macias, nous allons accueillir maintenant, vous le savez, nous aimons terminer ces émissions avec un témoignage pour essayer de comprendre ce que quelqu'un parmi vous a vécu. Et là, il s'agit au 0826 300 300 de Bernard. Et avec Bernard, nous allons parler de spiritisme. Bernard, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Merci.
Je vais vous parler un peu d'une histoire qui m'a beaucoup fait peur à l'époque.
Vous aviez quel âge quand c'est arrivé, Bernard?
Je devais avoir 16, 17 ans, j'étais adolescent.
Oui, et ça remonte à quelle année?
Les années, c'était être 72, 71.
Très bien.
Là, j'ai 51 ans maintenant.
Bon, Bernard, on fait juste une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour en discuter ensemble, si vous le voulez bien. Vous l'avez compris, nous allons parler avec Bernard de spiritisme et visiblement l'expérience qu'il a faite ne lui a pas laissé que des bons souvenirs. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Avec Louis Bénédi sur Sud Radio.
Et en compagnie ce soir de Bernard, qui nous appelle de Perpignan au 0826-300-300. Bernard, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis avec vous. Là, j'écoute
bien. Alors, mon cher Bernard, avec Pierre Massias, on vous écoute. Alors vous, pour rappeler un petit peu l'objet de votre appel, il s'agit de spiritisme. Vous aviez 16-17 ans, hein, c'est ça à peu près?
Oui, à l'époque... ça se faisait dans certaines maisons.
Oui, oui.
Et
un
beau jour, on était une dizaine de jeunes du village.
Oui, oui.
Et on était, il y en avait six et trois, dont moi-même, dans une pièce à part où on voulait faire du spiritisme. Et les autres étaient dans une pièce de l'autre côté qui écoutait de la musique.
D'accord.
Alors on avait une petite table ronde, circulaire avec trois pieds, sur laquelle il y avait des inscriptions marquées autour de la table.
Ouais.
Et on faisait tourner, après concentration et invocation d'un esprit, on faisait tourner une soucoupe.
Une soucoupe.
Une soucoupe sur laquelle il y avait une flèche et on posait des questions. On a même, je sais pas si c'était ce même jour ou de l'avant-veille, on avait même invoqué un esprit d'une personne vivante qu'on ne savait pas ni les uns ni les autres qu'elle était à l'armée, cette femme.
Ouais.
Et on l'a appris par le lendemain. Mais c'était pas du...
Ah, d'accord.
On a appris que c'était un esprit de quelqu'un de vivant qui nous avait répondu.
Ouais.
Et que cette personne, c'était une femme qui était à l'armée. On se demandait qui ça pouvait être et on l'a su après enquête.
Mm-hmm.
Et bon, ça, c'est...
Ah oui, donc, il y a... Enfin, je veux dire, ça a marché ce coup-ci, quoi. Il y a,
Vous avez eu... Et alors, le surlendemain, quoi, avec deux autres, on n'était que trois dans la pièce. On a voulu refaire, comme auparavant, une séance de spiritisme.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là que, après quelques moments de concentration, j'ai eu le regard qui s'est fixé et j'ai regardé le jeune qui était en face de moi. Je lui ai dit, regarde-moi, je vais t'endormir. Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. La troisième personne, après les faits, m'a dit, ça a duré longtemps de le regarder, et moi, j'ai eu l'impression que ça n'a pas duré longtemps. Et la personne que j'ai regardée dans les yeux est tombée, et quand elle reprenait ses esprits, qu'elle pouvait se tenir debout, elle tapait partout à grande force. Et quand elle reprenait son esprit moral, elle ne tenait plus sur les jambes, il fallait qu'elle soit assise.
Ah oui, elle était vraiment épuisée, quoi.
Elle était vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Et il y a plusieurs témoins qui
Oui.
Ils se rappellent, toutes ces personnes se rappellent cette histoire qui est très vieille. Et donc, ça m'a fait très peur parce que je ne savais pas moi-même ce qui se passait ni de quoi il s'agissait.
Oui. Mais dites-moi, quand vous dites que vous l'avez regardé, vous aviez l'impression de ne plus être vous-même ou vous étiez conscient de ce que vous faisiez?
J'avais l'impression de ne plus être pas moi-même. Et j'avais un regard fixe. Comme il ne m'arrive jamais d'ailleurs.
Oui.
J'ai un vague souvenir de ce regard.
Oui.
Et bien sûr, j'étais jeune, ça m'a fait peur.
Oui,
après,
j'imagine.
Pendant que ça se déroulait, les personnes qui étaient à la pièce à côté, on l'a fait marcher dehors, tout ça, jusqu'à ce qu'ils reprennent ses esprits.
Oui.
Et il a fallu bien trois quarts d'heure, une heure, pour que tout revienne à la normale.
Oui. Et vous vous sentiez comment à ce moment-là, juste après, je veux dire?
Moi, je me sentais un peu fatigué, si j'ai une bonne mémoire.
Ouais.
Mais j'ai surtout eu très peur. Et pour vous dire, la troisième personne travaillait, je crois, comme électricien à l'époque à Perpignan. Et il avait contact avec son patron. Je sais pas, je me suis pas trop renseigné là-dessus.
Ouais.
Qui m'a dit, mon patron fait partie des Rose-Croix. Je sais pas ce que c'est, si c'est une secte, si ça existe, seulement Norvège, et si je me rappelle, je crois que c'est bien ce nom qu'il m'a dit.
Oui, c'est une société spirituelle, oui.
Les postes de croix, et qui voulait me convoquer et que j'aille les voir. Et moi, j'ai eu tellement peur que je me suis jamais préoccupé d'aller voir les postes de croix.
J'imagine, oui.
Et je n'ai plus jamais, j'ai 51 ans, retouché à ce genre de choses, ni parlé de ce genre d'événements.
Spiritisme terminé pour vous.
Voilà, j'ai plus voulu en refaire.
Ouais, ouais. Mais dites-moi, cet ami-là, quand vous l'avez regardé fixement, hein, il s'est endormi, il est tombé, il a perdu conscience.
Ce que je me rappelle, c'est que on ne voyait plus que le blanc des yeux.
Il avait
tourné les yeux vers le haut, je suppose. Il n'y avait plus que le blanc des yeux.
Oui.
Et alors, c'est quand même quelque chose. Oui. Qui,
et donc il est tombé par terre.
Voilà.
Et après, quand il est revenu à lui, il a fait une crise, quoi, carrément.
Il avait des crises de comme s'il voulait se battre. Et quand il reprenait ses esprits, alors qu'on revoyait ses yeux normaux, il tenait plus sur les jambes.
Oui, c'était comme si c'était une sorte de crise d'épilepsie. Ça me fait penser un peu à ça,
hein. Mais c'est provoqué artificiellement et phénomène.
Ouais. Et vous saviez s'il était malade de ça, votre ami, ou pas du tout? C'était la première fois que ça lui arrivait.
Il est en très bonne santé. Il est toujours en bonne santé.
Ouais, ouais.
Il est marchand de légumes.
Ouais,
ça marche bien. Voilà.
Ah oui, donc c'était vraiment l'unique fois où ça lui est arrivé.
Ah oui. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Hein.
Ouais. Pierre Mathias, qu'en penses-tu? C'est vrai que ça ressemble à une crise comme ça de d'épilepsie ou une réaction nerveuse ou autre chose?
Oui, ça ressemble. Ça fait penser à la crise d'épilepsie.
Mm-hmm.
C'est le problème, je dirais, de la pratique de des séances spirites, des séances de table tournante.
Ouais.
Beaucoup parlent de danger de pratiquer une table tournante, une séance spirit comme ça, sauvagement.
Ouais.
Hein, beaucoup évoquent des notions d'esprit.
Ouais.
Personnellement, je ne rentrerai pas dans cette notion d'esprit. Je vois pas. Pour avoir pratiqué, comme tout le monde, moi-même, des séances spirit. Eh oui, ça m'arrive.
Ah bon?
Ça m'est arrivé, du moins.
Ouais.
On n'a pas grand chose, à mon sens, à craindre d'esprit.
Mm-hmm.
Par contre, autour d'une table comme ça, avec des personnes qui sont dans cette notion, dans cette mentalité, état d'esprit de générer du phénomène,
ouais.
Le contexte, l'environnement est parfois très difficile à maîtriser.
Mm-hmm.
Pour des raisons tout à fait psychologiques, je dirais, une séance comme ça peut déraper assez facilement.
Ouais.
Ici, ça peut être un cas de cet ordre-là. C'était trois personnes qui étaient quand même très certainement très motivées, puisqu'elles se sont mises à l'écart d'un groupe. Elles ont constitué leur propre groupe.
Ouais, ouais.
Il devait y avoir aussi une comment dire,
une ambiance,
oui. On se soumettait un petit peu au contexte.
Ouais, ouais, ouais.
Et peut-être que cette personne qui a eu cette réaction, genre crise d'épilepsie.
Oui, ça ressemble à ça.
Peut-être que cette personne était facilement influençable et a réagi de cette manière dans ce contexte très particulier avec quelqu'un qui l'a regardé.
Ouais.
Mais
Bernard, justement, lui-même dit, il nous l'a confié, Bernard avait l'impression de ne plus être lui-même, de se dire, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fixe en lui disant, regarde-moi, je vais t'endormir?
Je resterai sur le terrain de l'environnement, de l'atmosphère qui a ce moment-là, qui est vraiment très, très particulier. Quelquefois, ça peut se passer très bien, c'est-à-dire que quelqu'un peut... Je vais détailler un petit peu, mais quelquefois, il y a des problèmes de deuil. Je pense à un cas très spécifique d'une jeune femme qui avait perdu un ami proche et qui a... Je dirais pas fait son deuil, mais qui a entamé certainement le travail au cours d'une séance spirit à laquelle j'ai assisté.
Ouais.
Elle aussi, elle pouvait dire qu'elle se sentait dans un état très très particulier, qu'elle se sentait influencée par des esprits.
Ouais.
Mais en fait, c'est un processus psychologique à un moment donné dans ce contexte-là qui a pu prendre corps et ensuite qui s'est continué tout à fait normalement.
Ouais.
Là, ça a été une solution, je dirais, heureuse. Même si sa réaction au cours de la séance spirit a été, je dirais pas violente, mais très émotive.
Oui. Mais là, Bernard avait vraiment l'impression que un esprit prenait possession de lui, quoi, que ça n'était pas lui qui faisait ça.
C'est le problème de l'interprétation. On est confronté à un fait, un événement, quel qu'il soit, et derrière, on va chercher à lui donner une interprétation.
Bien sûr, oui.
On est dans un contexte spirit, et évidemment, la première idée qui va venir
c'est
en tête,
l'esprit,
c'est l'esprit.
Sûr, ouais.
Mais c'est pas, ça, je dirais, ça ne marche pas à tous les coups.
Mm-hmm.
On peut faire bouger des tables, même si on s'est mis dans un contexte, je dirais, spirit, on peut faire tourner des tables pour d'autres raisons que des raisons spirites.
Ouais.
Donc l'interprétation derrière est quand même très très difficile.
Ouais. D'ailleurs, à signaler que les spirites, l'association des spirites français que l'on a reçue ici dans les aventuriers de l'étrange il y a fort longtemps, eux-mêmes disent ne pas pratiquer les tables tournantes, que pour eux c'est vraiment une hérésie, si je puis me permettre ce terme. Eux sont contre pratique des tables tournantes.
Comme je disais, pour eux c'est dans la notion d'esprit mauvais, entre guillemets, qu'on peut rencontrer pendant une séance spirit. Bon, là on se retrouve face à deux approches d'un même phénomène.
Oui.
C'est-à-dire, dans la doctrine spirit, l'esprit donc existe. Et,
mais ça, c'est dans leur doctrine à eux, c'est leur croyance, évidemment.
Oui. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est nécessairement en provenance, en relation avec un esprit désincarné. Et comme il n'y a pas plus de raison d'être meilleur dans l'au-delà que sur Terre, on peut très bien trouver des esprits qui sont de mauvais esprits et qui vont chercher à influencer, à agresser les gens qui essaient de communiquer avec eux par séance spirit. Mmh. Donc ça, c'est la doctrine spirit. D'un autre côté, il y a une recherche, je dirais, plus rationnelle, plus scientifique, où on va s'intéresser à ce phénomène sous l'angle de vue du phénomène de la personne vivante.
Et
on se retrouve là, typiquement...
L'inconscient et dans la psychologie, en fait.
Dans la psychologie, dans la parapsychologie.
Mm-hmm.
On se retrouve là, de fait, et très, très rapidement, dans cette distinction, je dirais, entre spirit et parapsychologie.
Ouais. Tout en sachant que, lors de tables tournantes, comme Bernard nous l'avait dit, ils en avaient fait l'expérience la veille de cette expérience malheureuse, ils avaient eu une information qu'aucun d'entre eux n'avait, et donc là, il a pu se produire un phénomène parapsychologique, en revanche.
Aucun d'entre eux n'avait, et si j'ai bien compris, qu'il provenait d'une personne vivante.
Vivante, tout à fait, oui. Et qu'ils ont pu avoir, d'ailleurs avoir l'information le lendemain.
Voilà. Donc, là, on se retrouve, je dirais, dans ce qui amène à l'hypothèse parapsychologique dans le courant de l'événement spirit, c'est-à-dire que la personne est vivante, on s'adresse pas à un esprit, et si on n'avait pas su que la personne n'était pas vivante, on aurait cru à un esprit. Donc pendant la séance spirit, où il peut se produire, même à la limite, si on accepte l'idée d'existence d'une vie dans l'au-delà, au cours d'une séance spirit, c'est un milieu extrêmement favorable à l'apparition du psy.
Oui. De phénomènes paranormaux.
De phénomènes paranormaux. Donc, et là, ça le met bien en évidence, en fait, puisque on peut supposer quand même qu'il y a eu échange d'informations entre cette personne vivante et ce groupe en situation spirit.
Mmh. Très bien. Merci beaucoup Pierre Massias, tu restes avec nous parce que pendant l'indicatif tu vas nous rappeler les deux livres tout à fait intéressants concernant notre dossier qui était l'île de Pâques.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Notre émission arrive à son terme. On se retrouvera bien entendu le week-end prochain, samedi et dimanche, avec deux émissions tout à fait passionnantes. La première sera consacrée, je l'espère, au père Giacomo, dont la tombe est au cimetière de L'Angèle à Lourdes, une tombe qui est extrêmement visitée, et la tombe du père Giacomo, enfin l'esprit du moins du père Giacomo, aurait accompli, accordé beaucoup de grâce à ceux et celles qui sont allés se recueillir dans ce cimetière, sur cette tombe. Nous parlerons dimanche prochain de Glozel. Alors Glozel, c'est un dossier archéologique tout à fait passionnant. C'est en France, figurez-vous, dans le centre de la France, du côté de Vichy à peu près, pour vous situer un peu géographiquement. Et si les écritures qui ont été retrouvées là-bas se révèlent authentiques, eh bien figurez-vous que nous aurions en France la plus vieille écriture humaine connue, ce qui est absolument extraordinaire. Juste avant de vous quitter, deux références rapidement, Pierre, les références des deux livres concernant le dossier de ce soir, c'est-à-dire l'île de Pâques.
Donc avec Alfred Métro, l'île de Pâques aux éditions Gallimard, mais qu'il faudra trouver, tâcher de trouver en occasion.
Sur Internet, sur eBay, sur Amazon, quelque chose
exactement.
Comme ça, où on peut retrouver.
Sur d'accord. des sites spécialisés de bibliothèques.
Ouais, d'accord.
Et l'île de Pâques 1934, Deux hommes pour un mystère, de Thomas Lavacherie, le petit-fils de Henri Lavacherie qui a participé à l'expédition, aux éditions Labor.
Voilà, et selon Patrick Ferrine, ce sont deux livres incontournables, si on veut, voilà, des classiques incontournables, si on veut bien comprendre ce dossier fascinant de l'île de Pâques. Vous savez, notre répondeur est à votre disposition, vous pouvez nous laisser des messages tout au long de la semaine, 0826 300 300, 0826 300 300, vous nous laissez un message sur la boîte vocale des Aventuriers de l'Étrange, en n'oubliant pas vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Vous pouvez également nous écrire par mail, c'est étrange, au singulier, étrange@sudradio.fr. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et on se retrouvera samedi prochain. Bonne semaine.